Bonjour, nous nous retrouvons pour l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, je répète, le 01 47 07 39 55. Nous avons également un site internet noahosezledire.fr et vous pouvez nous retrouver sur la page Facebook Noah Osez le dire. Je reçois aujourd'hui le Rav Élie Lemel qui dirige la maison de la famille depuis 2002, depuis sa création, et nous allons parler aujourd'hui d'abord du rôle de la maison de la famille et ensuite des nouvelles activités de la maison de la famille. Donc bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous le rôle de la Maison de la Famille et vos activités.
Alors, la Maison de la Famille, c'est une structure qui existe donc depuis un certain nombre d'années. Elle était là comme une forme de réponse très concrète par rapport à des demandes. Tout d'abord, des demandes de guidance par rapport à tout ce qui a trait à l'univers du couple et l'univers de l'éducation. Et puis après, dans un second temps, réponse à des appels qui touchent toutes les problématiques qui sont liées à la famille. Avec un souci, c'est qu'elle soit traitée par des professionnels, mais qui en même temps intègre la dimension juive des différentes personnes qui venaient la consulter, parce que même si la majeure partie d'ailleurs des personnes qui viennent nous consulter ne sont pas des personnes qui sont issues des milieux pratiquants d'une quelconque manière, mais néanmoins elles ont besoin d'être en confiance et de savoir que, eh bien, on va intégrer leurs particularités à l'intérieur d'une démarche thérapeutique et qu'en tout cas les thérapeutes qui vont les suivre ont connaissance de cela. Donc c'est une structure qui a commencé par tout d'abord des écoles de parents. Les écoles de parents continuent toujours d'ailleurs à fonctionner un petit peu partout, que ce soit à Paris, en région parisienne ou dans d'autres endroits. Donc ce sont des conférences sur tous les sujets qui ont trait à l'éducation. Par ailleurs, il y a donc l'univers des formations des jeunes couples, avec une journée spéciale d'ailleurs qui s'appelle la journée Hatan Vekala, qui est une journée dans laquelle on sensibilise les déjà couples et les futurs couples à tout ce qui a trait à l'univers de la communication, de la gestion de la belle famille, enfin de tout ce qui va autour de cela. Ce sont aussi des conférences régulières, comme par exemple bientôt une à la Maison Boisdonne avec Bernard Prieur et moi-même sur le couple et l'argent. Et en dehors de cela, il y a une ligne d'écoute. Alors cette ligne d'écoute, à ceci de particulier, c'est que ce n'est pas une ligne d'écoute en direct, parce qu'en effet, notre choix a été de ne pas répondre instantanément aux demandes, mais c'est une ligne sur laquelle vous pouvez laisser un message et vous avez un thérapeute qui vous rappelle et qui va analyser la problématique à laquelle vous êtes confronté, qui sont multiples, et qui, fonction de cela, va orienter vers des personnes qui font partie de notre équipe. Et bien sûr, à partir de là, eh bien, il y a un travail d'équipe qui peut se faire autour des différentes difficultés qui sont posées, aussi bien dans le domaine de l'éducation que dans le domaine du couple, que dans des domaines beaucoup plus durs, tels que les problématiques d'attouchement, les problématiques de violence et tout ce qui va en vérité autour de la famille. Car soyons bien clairs, aujourd'hui la famille juive n'est absolument pas épargnée par tout ce qui a trait aux difficultés qui sont présentes à l'intérieur des sociétés dans lesquelles nous sommes.
Alors, lorsque nous nous sommes rencontrés, j'étais un peu impressionnée par le nombre d'appels que vous recevez chaque mois. Ça m'a semblé impressionnant. Donc, je voudrais que vous nous en parliez un petit peu.
Alors oui, en effet, il y a beaucoup d'appels. Les appels sont différents. Il y a tout d'abord les appels sur le numéro de la maison de la famille, et puis après il y a ce que j'appellerais les appels entre guillemets privés, puisque bon nombre de personnes vont me contacter directement, et généralement, eh bien, il va y avoir dans tous les cas de figure une orientation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens sont souvent assez perdus face à des difficultés qu'ils n'imaginaient pas. Et je crois que, et c'est là où en effet il y a un vrai travail à faire, c'est que nous travaillons beaucoup en aval, alors qu'il faut aussi qu'on travaille beaucoup en amont. C'est-à-dire qu'on est là face à la gestion de crise. C'est-à-dire la personne nous appelle, voilà, mon ado de 15 ans n'est plus là. Ou alors il rentre à la maison et il repart tous les soirs. Ma petite commence à fumer du shit. Mon mari a décidé, enfin, que sais-je. Et là, les gens sont dans leur souffrance, leurs difficultés, et ne savent pas véritablement vers qui se tourner, et surtout se disent, mais comment est-ce qu'on règle les problèmes? Alors, bien sûr, on doit être là et intervenir, et je le précise, dans un cadre de totale confidentialité, avec des thérapeutes dont c'est le métier. Moi-même, je ne suis pas thérapeute, je reçois les gens souvent pour un premier entretien, et puis après je les oriente, parce que parfois les gens ont besoin d'être aussi en premier entretien, ou alors ils sont directement dirigés par la ligne d'écoute. Mais ce qui est intéressant, c'est de réaliser que il n'y a pas, ou en tout cas pas suffisamment de travail qui est fait en amont. Et c'est ça, où, c'est pour ça que les ateliers, les écoles de parents sont tellement importants, parce qu'ils permettent en effet de réfléchir à l'enjeu de la construction d'une famille et de tout ce qui s'y trouve. Hein. Une famille, c'est pas quelque chose qui se crée du jour au lendemain, c'est une histoire commune, c'est une histoire en même temps différente. Chacun d'entre nous arrive avec sa propre histoire, avec sa loyauté, avec ses souffrances, avec ses traumas, avec aussi ses moments de bonheur. Et puis il va falloir qu'on mette tout ça ensemble et qu'on construise avec aujourd'hui en plus les méfaits d'Internet, les méfaits de Facebook, les méfaits des portables qui s'introduisent dans la vie familiale et qui posent encore plus de problèmes au niveau des communications.
Alors nous, on s'est posé la question, lors de colloques qu'on a fait, de savoir comment on pouvait justement faire de la prévention. Nous, c'est bon, exclusivement les violences conjugales, hein, pas les violences intrafamiliales pour l'instant, mais uniquement les violences conjugales. Et bien évidemment, nous, c'est uniquement une ligne d'écoute téléphonique. On ne reçoit pas les personnes. C'est dans nos statuts, uniquement de l'écoute. Mais on s'est posé la question, comment on peut prévenir cette violence?
Alors, la question est pas simple, parce que il y a beaucoup de choses, beaucoup de phénomènes qui jouent. Tout d'abord, rappelez-vous que certaines personnes ont vécu dans un univers de violence. Et quand je dis univers de violence, c'est pas nécessairement Cosette, c'est pas nécessairement Zola, c'est la violence des silences aussi, la violence des mots dans lequel arrive à dire à son épouse, tu me prends la tête, casse-toi, enfin, ce genre de vocabulaire qui malheureusement nous semble banal, mais qui sont dramatiques parce que c'est le déni de l'autre. Donc, il y aurait un travail à faire, évidemment, d'abord au niveau des écoles. Et puis surtout, je crois beaucoup, beaucoup dans la préparation au mariage. Vous savez que dans le cadre de la structure de la maison de la famille, enfin la structure plus large qui s'appelle la structure Lève, nous avons développé depuis des années une formation pour les formatrices. Alors, qui aujourd'hui se développe aussi, il y a aussi l'association Beurre qui fait ça, mais on insiste énormément sur le fait que la formation pré-mariage, et qui doit être faite aussi bien au niveau des jeunes filles que des jeunes gens. Et là-dessus, je lance un appel. Il faut absolument comprendre qu'un jeune homme, comme une jeune fille, a besoin de se préparer au couple. Il viendrait à personne l'idée de partir faire un tour du monde en 80 jours sans se préparer, mais on est prêt à partir pour un tour de couple à 80 ans, on l'espère ensemble. Et les gens s'y préparent pas, c'est bon. La pub qu'on faisait, c'est vous avez préparé beaucoup de temps à préparer votre mariage, mais combien de temps pour préparer votre vie à deux?
Alors, j'avais été voir à l'époque une personne au consistoire qui justement donnait des cours de préparation au mariage, et j'avais évoqué cette de préparer les jeunes couples au mariage en évoquant les problèmes de respect et de non-violence vis-à-vis l'un envers l'autre. Et il m'avait été répondu qu'on n'évoquait pas l'éventualité de violence avant un mariage. Et je trouve que on peut pas faire exception de ce type de.
Alors c'est vrai qu'on ne va pas l'évoquer de manière crue en disant voilà vous savez vous connaissez l'histoire j'ose espérer fausse de ce paysan je ne sais trop de quelle contrée à qui on disait ne frappe pas ta femme et qui disait oh ben je la frapperai que si elle me désobéit. Vous imaginez un petit peu, mais malheureusement c'est plus courant que ce que l'on ne croit. Je crois que nous, en tout cas, nos formateurs et nos formatrices, on les a formés à la PNL, on les a formés à pas mal de techniques pour pouvoir amener les personnes qui vont se marier à parler un petit peu de leur propre histoire et surtout à leur dire que lorsqu'il y a conflit, et le conflit est inhérent au couple et c'est normal. Le problème, c'est pas tellement le conflit, c'est les modalités du conflit. Parce que qu'on ne soit pas d'accord, mais c'est un peu normal. Par contre, c'est comment est-ce que ça s'exprime et puis c'est quoi les enjeux du conflit? Est-ce que le conflit, c'est le sujet? Ou le conflit, en vérité, il est là pour révéler une problématique par ailleurs? Est-ce que c'est le problème de la place de chacun qui se joue ici? Ou c'est juste le sujet sur lequel on se trouve? Et je crois qu'il est important d'en parler avant, d'en parler, je pense même dans les écoles. Hein. Je regrette que dans les écoles juives, on ne prenne pas du temps pour parler aux jeunes gens et aux jeunes filles qui ont 15, 16, 17 ans, de c'est quoi le couple, de c'est quoi la communication, de c'est quoi l'échange. À un moment, faut pas se leurrer. On sait très très bien qu'ils savent parfaitement ce qui se joue dans une histoire de couple. Eh bien, parlons-en. Mais faisons-leur passer des valeurs juives et des messages à ce sujet.
Je vous propose une petite interruption musicale et nous reprendrons notre entretien tout de suite après.
מתנת יום הולדת, משתמש בו כמו שרק, כמו שרק הוא יודע. אם בא לכם להיות חברים שלו בחורף הזה, הוא החליט לספר את מה שיש לו בלב, מה שכואב. בקיץ הבא מה יגידו כולם? אם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא יעשה לכם טוב ביום שישוב עייף ועצוב. תזכרו שיש אנשים יותר חלשים. בחדר אז אל תדליק את האור, כי עכשיו כבר בסדר, כן עכשיו היא בסדר. לאונרדו בטוח הלב לא צריך לנוח, ואז שוב עם ארמונות באוויר. מוות בטוח זה מוות מהיר. ואם בא לכם להיות חברים שלו בזמן הקרוב, הוא יעשה לכם טוב ביום שישוב עייף ועצוב. אתם תזכרו שיש אנשים בחדר, אז אל תדליק את האור, כי עכשיו כבר בסדר, אני רועדת בחדר, אז אל תדליק את האור, כי עכשיו כבר בסדר.
Vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de l'association Noah Osez le Dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales. Vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 13h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55, 01 47 07 39 55. Vous pouvez également consulter notre site internet noahosezledire.fr et consulter notre page Facebook. Je reprends notre entretien avec le rave Élie Lemel qui nous parlait de l'action et des activités de la Maison de la Famille, et nous allons parler maintenant des nouvelles créations de la Maison de la Famille. Relève qui date de 5 ans, mais des missions plus récentes.
Alors, tout à fait. Donc, je vais quand même un petit peu remettre le cadre. Tout d'abord, pour les personnes qui le veulent, la ligne d'écoute, c'est 0820 20 98 70. 0820 20 98 70, c'est pas un numéro surtaxé, hein, c'est un numéro Azur. Maintenant, la maison de la famille s'inscrit à l'intérieur d'un projet beaucoup plus vaste qui est le projet de l'Ève. L'Ève, on va dire, c'est la maison mère, et puis la maison mère, eh bien, elle décline d'autres sous-projets, donc qui sont, un, la maison de la famille dont on vient de parler. Il y a la Relève, qui est donc une structure pour les jeunes qui fête son 5e anniversaire. Ce sont des centaines et des milliers de jeunes maintenant aujourd'hui qui le fréquentent. Donc ça, c'est une structure dans laquelle, les jeunes ont toutes sortes d'activités, des voyages, des cours, des sorties. Enfin, c'est très très multiple, très varié. Il y a Lève Open qui sont pour les jeunes moins jeunes, enfin pour les 28-40, avec pas mal d'activités, enfin même beaucoup d'activités. Il vient d'y avoir une grosse soirée pour Hanouka. Donc toujours là, c'est l'idée à la fois identité juive, découverte, échange, proximité. Et puis il y a aussi à l'intérieur de cette structure une autre structure qui est en Israël, qui élève Israël. Alors là-bas, ce sont plusieurs communautés qui ont été montées en Israël, aussi une maison de la famille d'ailleurs qui a été lancée au début de cette année, qui tourne très très bien. Et puis il y a le pôle social de l'Ève. Alors là, c'est le petit bébé. C'est tout simplement bien une création pour s'occuper des personnes qui sont en difficulté. Alors ce sont des milliers de repas qui sont servis par mois. C'est aussi une aide très concrète au niveau des SDF, des familles ou des personnes qui sont en difficulté temporaire, qui avant d'être pris en charge par les services de la communauté, eh bien, notre particularité, nous sommes totalement d'ailleurs en phase avec ces services, hein, que ce soit le CASIP ou d'autres, on est totalement partenaire avec eux, mais je dirais qu'on a une équipe qui est extrêmement réactive sur le terrain et qui donc, parce que très très réactive, peut intervenir immédiatement, pardonnez-moi, avant de passer le relais à des structures plus classiques. Et puis surtout, il y a une forme de synergie très intéressante avec les jeunes, puisqu'on a créé ce qu'on appelle le commando mitzvah, c'est entre 50 à 100 jeunes qui sont mobilisables en permanence et qui sont là pour toutes sortes d'actions. Ça peut être une mamie qui est seule chez elle et qui se sent vraiment très seule. Ça peut être aussi venir réparer la douche chez une personne âgée. Ça peut être tout simplement rendre visite à des personnes qui sont âgées et qui n'ont pas de famille et qui leur rendent visite. C'est aider de manière ultra concrète une maman qui malheureusement a dû partir à l'hôpital et sait pas comment gérer pour amener ses enfants parce que tout simplement malheureusement il n'y a pas de papa. Voilà, c'est très vaste. Et j'ai envie de dire, grâce à Dieu, et malheureusement, ça prend de l'ampleur, dans le sens où il y a des besoins qui sont très concrets sur le terrain. J'ai envie de dire que pour nous, c'était fondamental parce que ça permet aussi de créer une implication de nos jeunes et de faire en telle sorte que les jeunes de la communauté réalisent qu'être juif, c'est pas nécessairement juste une pratique, mais c'est aussi un engagement ultra concret au service des autres et de manière très très réelle. C'est-à-dire quand ils vont faire des colis pour Amazon, quand ils vont aller voir des vieilles personnes, quand ils vont aider quelqu'un à réparer quelque chose chez lui à la maison, quand ils vont aller visiter ces personnes âgées, quand ils vont aller voir des personnes qui sont malades dans un hôpital et tout, ils se confrontent à la réalité, ils donnent d'eux-mêmes et pour nous c'est extrêmement important parce que ça participe de leur construction au niveau de leur identité qui n'est, comme je l'ai dit, pas juste que de l'étude, pas juste que des mitzvot, mais ce qui est aussi véritablement dans la relation à l'autre. Et pour nous, c'est vrai que c'est un réel bonheur. On a une fille formidable qui dirige cette structure, qui s'appelle Muriel, qui fait un travail sur le terrain colossal et qui un petit peu manage maintenant toutes ses équipes. On vient d'avoir, grâce à des généreux donateurs récemment, un camion réfrigéré qui permet de livrer les repas aux familles qui sont en difficulté dans des conditions optimales. Et surtout, je crois qu'on s'inscrit dans la grande chaîne de solidarité qui fait partie de la communauté, avec notre particularité, avec notre spécificité. Mais je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'il y a un vrai travail en synergie qui se fasse sur le terrain, avec un travail de complémentarité les uns par rapport aux autres.
Alors j'imagine que dans l'hébergement des SDF, vous hébergez également des femmes qui subissent des violences conjugales.
Exact.
Et dans l'urgence, j'imagine.
Exact, c'est-à-dire là on s'y retrouve, c'est très simple, quand vous retrouvez avec des gens qui vous signalent, parce que souvent c'est des gens qui vous signalent, les gens n'osent pas, il y a une maman qui est là et qui dort avec ses trois enfants dans la voiture. Donc oui, évidemment qu'à un moment, il y a des structures qui vont, mais là ce soir, là maintenant, on fait quoi? Donc nous on peut dégager enfin immédiatement des budgets à la seconde, c'est-à-dire il y a des budgets qui sont là, qui sont affectés pour ça. La personne qui est responsable, elle a sa carte bleue, elle peut prendre la décision elle-même. On va prendre une, deux chambres d'hôtel, on va faire livrer des repas et pendant les premiers jours, on est là et on va faire le travail. Et évidemment, on ne va pas se substituer à toutes les structures qui sont des structures d'abord de la ville, des structures d'État, des structures aussi communautaires. Mais là, tout de suite, il faut faire quelque chose. Et c'est surtout par rapport à ça. Derrière, il y a un autre travail qui est fait. Parce que la plupart du temps, ceux que l'on croit des SDF ne sont pas nécessairement, comme on le croit dans notre imaginaire, des clochards. Ce sont des personnes qui, lentement mais sûrement, malheureusement sûrement, vont vers une certaine forme de déchéance parce qu'il n'y a plus de travail, parce qu'il n'y a plus de famille, parce qu'il n'y a pas d'amis. Vraiment les accidents de la vie. Alors il y a un travail qui est fait à côté, du coaching. On fait du relooking, on essaie de leur trouver du travail. Là, par exemple, on a trouvé du travail encore à deux personnes. Alors ça va être qui a livreur dans un magasin, qui manutentionnaire ailleurs, mais ça y est, ils vont avoir de nouveau un salaire, ça redémarre et je tiens à souligner, parce que pour nous c'est extraordinaire, le travail formidable que fait Muriel avec les bénévoles de la relève, mais elle-même est là et puis il y a son équipe de bénévoles, elle a une équipe de 40 femmes qui sont autour d'elle, qui s'occupent pour les préparations de repas et tout, et je trouve que ça, en tout cas pour nous, c'est un privilège de pouvoir travailler, de s'inscrire à l'intérieur de cette démarche.
Oui, parce que je vais vous dire, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent agir comme ça dans l'urgence.
Oui.
Il faut des dossiers, il faut que la femme travaille.
Ce qu'on peut comprendre.
Il y a des conditions à remplir. Et héberger une femme avec ses enfants comme ça dans l'urgence, c'est très difficile.
C'est sûr. Et puis, il faut qu'on reste aussi dans le cadre légal en permanence. Mais c'est un petit peu la particularité de l'Ève. Clairement, j'ai la chance d'avoir à mes côtés une très très belle équipe et de gens en qui j'ai une réelle confiance et qui savent que voilà, ils sont libres de prendre des décisions parce que tout simplement ils savent juger un cas et puis c'est ça notre travail à nous et je remercie aussi tous ceux qui sont derrière et qui nous aident à faire ce travail et qui nous font confiance aussi. Alors bien sûr derrière il y a un travail de débriefing qui est fait très régulièrement et tout mais lorsqu'il faut agir, la personne n'a pas besoin de m'appeler, elle est là, elle voit, elle sait, elle a les moyens, elle va le faire, on se reverra 3-4 jours après, elle me dira ce qui s'est passé, on analysera. Il y a comme partout des petites erreurs de casting qui sont, mais ça fait partie du travail, c'est un petit peu normal, et c'est comme ça que je pense qu'on peut avancer.
Et ma dernière question, est-ce que vous pensez que depuis quelques années, il y a une recrudescence de la violence de...
Alors, c'est une excellente question. Le problème que j'ai, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une recrudescence parce qu'on en entend plus parler ou pas. Là-dessus, j'ai un vrai point d'interrogation. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de violences verbales, de violences psychologiques. C'est-à-dire, j'ai l'impression que malheureusement, il y a toujours des violences physiques hein, et partout. Hein. C'est pas que dans le 9-3, hein, c'est dans le 9-2, c'est dans le 8e, c'est dans le 18e aussi. Ne nous imaginons pas que la violence, elle est juste. Mais il y a d'autres violences et sur lesquelles on commence un petit peu plus à parler, qui sont les violences verbales, les violences de mépris, le déni, et qui sont pas sains parce que il faut que les personnes acceptent qu'elles sont en souffrance, qu'elles sortent d'un sentiment de culpabilité qu'elles peuvent avoir, pensant qu'elles sont responsables, et puis surtout qu'après elles aient une oreille attentive. L'oreille attentive n'est pas là nécessairement pour valider tout ce qu'elles disent, mais pour leur dire, voilà, ben nous sommes prêts à vous entendre et à avancer avec vous pour régler le problème. Parce que notre idée à nous, notre idéologie, c'est de se dire, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose à faire. C'est-à-dire que même ce couple qui va mal, qui va même parfois très mal, il y a peut-être quand même quelque chose à faire et on a vu des choses extraordinaires qui peuvent se passer, qu'à un moment il y a des prises de conscience très très fortes qui se font et si un accompagnement thérapeutique adéquat, eh bien il y a des couples qui peuvent redémarrer, les cicatrices sont là, les bleus à l'âme et les bleus au corps mettent du temps à disparaître et parfois plus les bleus à l'âme que les bleus au corps, mais s'il y a un désir de reconstruire, alors il y a la possibilité quand même de faire quelque chose. En tout cas, on ne démarre jamais de manière pessimiste face à une situation de ce type, même si parfois on sait que l'issue risque d'être une rupture. Mais bon, on essaye d'imaginer autre chose.
Alors nous arrivons au terme de cette émission. Je vais vous demander de redonner les coordonnées de la Maison de la Famille. Peut-être les personnes n'ont pas eu le temps de noter votre
Tout à
numéro
fait.
De téléphone.
Alors, la Maison de la Famille, donc, c'est un numéro non surtaxé, je le précise. C'est un 0820 20 98 70. 0820 20 98 70. Donc, vous avez un guide vocal. Vous laissez vos coordonnées. Et dans les 24 heures, un thérapeute ou une thérapeute vous rappelle et voit ce qui se passe. Et à partir de cela, eh bien, le travail peut commencer à se faire.
Je vous remercie infiniment d'avoir participé à cette émission.
Avec plaisir.
Je vous rappelle que vous étiez à l'écoute de l'émission de Noah Osez le dire, ligne d'écoute téléphonique destinée aux femmes victimes de violences conjugales, que vous pouvez nous joindre du lundi au jeudi de 10h à 16h au numéro suivant, le 01 47 07 39 55. 01 47 07 39 55. Consultez notre site internet noahosezledire.fr et nous suivre sur la page Facebook Noah Osez le dire. Je vous souhaite un excellent mois et on se retrouve le mois prochain.